Autre radio, autre culture. Bonjour, émission également diffusée sur audiopeople.fr. Aujourd'hui, nous recevons un ingénieur du son que tout le monde connaît et qui s'appelle Stéphane Reichard. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va bien.
Ça va bien ?
Après une semaine de vacances, tout va bien.
Alors Stéphane, vous êtes, semble-t-il, spécialisé sur la musique de film.
Tout à fait.
Est-ce que cela demande des particularités spéciales au niveau des oreilles, au niveau du savoir ?
Au niveau des oreilles, pas plus qu'un autre ingénieur du son, je pense. Au niveau du savoir, il y a deux spécificités, en fait, qui sont la musique classique, d'avoir une base de musique classique, propre à l'enregistrement de ce style de musique, et la deuxième, qui est toute la technicité qui touche au format du film, qui est l'enregistrement multicanal, les diverses réductions qui peuvent en découler.
Vous êtes musicien à l'origine ?
À la base, musicien, clarinettiste.
Donc, études au conservatoire ?
Études au conservatoire de Reims, et puis après, école sur Paris. Et après, j'ai suivi le parcours classique, stagiaire, porteur de café, assistant, ingénieur freelance.
Alors, vous êtes un pur produit de Davout, il me semble, non ?
Pur produit de Davout, effectivement. Depuis, je suis rentré en janvier 93 au studio Davout, d'une manière assez étrange, en fait, puisque j'ai démarché à peu près tous les studios de Paris à l'époque avec mon petit sac et mes petits CV en sortant de l'école. Et Davout était le seul studio qui avait une grande grille qui était fermée, donc je n'arrivais jamais à rentrer là-bas. Et avec les habitudes des cours d'école et de choses comme ça, on avait des cours qui finissaient un peu tard, j'appelais toujours après 19h, c'était toujours fermé. Et après une semaine infructueuse de démarches, le vendredi avant de rentrer à Reims où mes parents habitaient, je me suis dit, je vais quand même essayer d'appeler, voir si c'est possible de contacter quelqu'un. Et là je tombe sur Claude Hermelin, l'ingénieur maison des studios Davout, qui me dit, c'était au mois de décembre, il me dit, bah, écoutez, j'ai une place de stage, si vous avez une convention de stage, je peux vous prendre à partir de janvier. Donc là, j'ai filé directement à mon école, trouvé ma convention de stage, je l'ai déposée le vendredi soir même, et j'ai attaqué au studio Davout le 2 janvier 1993, avec Claude Hermelin. Et en fait, c'était un choix assez défini, parce que j'avais, en écoutant des musiques de films, je savais que c'était un endroit où c'était fait beaucoup de musique de film, et j'avais ce souvenir, étant un peu plus jeune, de... Je ne sais pas si tout le monde se souvient de ce dessin animé Tintin et le Lac aux Requins, où il y avait le nom de Claude Hermelin qui apparaissait en très gros, en fait, dans le générique de fin. C'est assez rare de voir un nom aussi important. Et donc, je m'étais dit que c'était la meilleur moyen, en fait, d'attaquer la musique de film, parce que dès le départ, en fait, j'étais parti un peu dans ce secteur qui me permettait non pas d'aller dans le milieu classique, mais de pouvoir aussi allier le côté studio, en fait, et de pouvoir aussi peut-être toucher un petit peu à la variété et de choses comme ça. Sachant que à l'époque les moyens, enfin, le sont toujours aussi en fait au niveau de la musique de film, la musique classique. En France, on a toujours cette image un peu de l'ingénieur du son classique avec sa petite console et ses trois micros. En voyant que c'était un marché quand même assez petit, je trouvais que il y aurait sans doute beaucoup plus d'opportunités dans la musique de film. Donc, je me suis un petit peu orienté dès le départ dans cette direction. Et c'est un petit peu pour ça, en fait, que Claude Hermelin m'a pris, parce que lui, ça l'intéressait d'avoir quelqu'un qui puisse aussi gérer après la musique de film. Sachant que l'assistant qui était là-bas devait partir, puisqu'il faisait des études d'acoustique et lui faisait ça, en fait, pour payer son loyer. Ça l'amusait et il n'était pas prévu qu'il reste très longtemps. Donc, ça a été un peu un coup de chance, quand même, malgré tout. Et, parce que déjà à l'époque, il y avait beaucoup moins de stagiaires dans les studios que maintenant. Quand on y arrivait, on pouvait trouver une place assez facilement. Et voilà, et j'ai suivi tout mon cursus là-bas, toutes les étapes, stagiaire, assistant maison, assistant freelance, un peu d'ingénieur maison pour eux, puis ingénieur freelance.
Parce que moi, je l'ai vu au niveau des universités. On a, par exemple, des universités où on reconnaît les étudiants de certaines universités par leur méthode de penser, leur méthode de travailler et autres. Est-ce qu'on ressent ça au niveau des stagiaires lorsqu'ils ont travaillé très longtemps dans des studios comme Guillaume Tell, Davout et autres? Est-ce qu'on arrive à les reconnaître? Ah oui, celui-là, il sort de Davout. Celui-là, il vient de Guillaume Tell.
Un petit peu, parce qu'il y a des méthodes de travail en fonction des ingénieurs maison. Enfin, à l'époque, surtout des studios comme Guillaume Tell ou Davout, il y avait des ingénieurs maison qui étaient là depuis très très nombreuses années. Donc, tous les assistants travaillaient avec eux. Donc, effectivement, il y a des méthodes de travail. Moi, je l'ai vu et je le vois maintenant, en fait, en étant ingénieur. Quand d'autres ingénieurs du son font des musiques de films, si je suis amené à récupérer des bandes qu'ils ont fait, les mixer, je vois, en fait, les écoles suivant les studios qui sont un petit peu différentes. Effectivement, entre la prise de son que faisait Roland Guillotel à l'époque et Claude Hermelin n'était pas du tout pareil. Dans le choix des micros aussi. parce qu'ils apprenaient avec telle sorte de micro et d'autres avec d'autres micros. Donc effectivement, il y a une petite différence. Puis après aussi, dans les chaque studio un peu est une école aussi, la façon de penser, la façon dont le studio est dirigé. Guillaume Tell, c'était un endroit qui était quand même beaucoup plus strict que Davout. Je pense qu'on laissait un peu moins de chance aux jeunes assistants de pouvoir s'exprimer, que ça soit personnellement et dans le travail d'ingénieur du son. À Davout, dès qu'on était un peu lancé, dès qu'il fallait remplacer un ingénieur maison, c'était les assistants qui s'y mettaient tout de suite, quoi. Et moi, je me souviens que le premier album que j'ai fait, ça faisait 8 mois. Au bout de 8 mois, j'avais un album à faire en tant qu'ingénieur du son. De nuit, c'était l'époque du rap. Donc c'est le seul et unique projet de rap que j'ai fait, et je me souviens que le projet avait été fait de manière un petit peu olé olé, on va dire. Et donc le soir, j'avais appelé complètement paniqué Claude Hermelin à 20h chez lui en lui disant « Claude, apparemment, c'est moi l'ingénieur du son, qu'est-ce que je fais ?» Et il m'avait dit « Est-ce que t'en es capable ?» Je lui ai dit « Bah je pense », il me dit « Bon bah rendez-vous demain alors. » Voilà. Et c'était parti. Et je pense qu'à Guillaume Tell, du souvenir que j'ai, si l'ingénieur, par exemple, était indisponible, ils avaient tendance à appeler un autre ingénieur du son, plutôt que de laisser la place à l'assistant, disant, bah, il peut peut-être y arriver, donc donnons-lui sa chance, et puis on verra bien ce qui se passe. Parce qu'en général, c'est toujours un peu comme ça que ça commence, hein, on remplace quelqu'un au pied levé, et puis ça démarre comme ça. Moi, c'est ce qui s'est passé, en fait, un petit peu plus tard, qui m'a permis de faire ma première grosse musique de film. J'ai remplacé un ingénieur du son au pied levé, il y avait 17 séances d'orchestre à faire, et c'était un gros téléfilm, et ça m'a lancé comme ça, en fait.
Est-ce que c'est une vocation d'être ingénieur du son ?
Je pense. Je pense que c'est un peu... Ouais, c'est une vocation. Alors d'autres le ressentent peut-être pas comme ça, mais moi je sais que j'ai eu cette envie, je sais pas, vers 14-15 ans. Il y avait un tout petit studio à Reims, en fait, qui s'était construit. J'avais appris par des amis il était en train de monter son studio. J'avais été là-bas un peu bricolé avec lui. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un de très technique. Je ne dis pas beaucoup de bouquins techniques à la maison. J'en lis parce qu'il faut en lire, mais je suis pas un aficionado de la technique. J'essaye de faire qu'elle soit le plus transparent possible, en fait, dans mon travail. Mais effectivement, le fait de se retrouver comme ça... d'être un petit peu une personne de passage entre la musique et le support. En fait, je pense qu'effectivement, il faut quand même qu'il y ait un peu une certaine vocation, parce qu'il faut quand même mettre son ego de côté. Et puis, ça reste un métier de l'ombre. Malgré tout, on est toujours un petit peu au fond. Des fois, vous n'êtes pas crédité. Des fois, on vous oublie un petit peu dans les plannings, choses comme ça. Donc, il faut faire avec. Donc, je pense qu'effectivement, il faut avoir un petit peu faut avoir quand même une vocation assez, assez poussée. Pour ça. Et puis je pense que pour l'expliquer, en fait, moi j'ai toujours été incapable d'expliquer le déclic, si ce n'est effectivement d'avoir vu un studio, mais bon, ça, je pense que ça à 14-15 ans, quand on voit un studio, une console, ça plaît à beaucoup de gens, en fait. Je pense que si on veut durer, de toute façon, il faut avoir l'envie technico-artistique. Tous les ingénieurs du son que j'ai connus, qui étaient un peu des, c'est méchant à dire, mais un peu des musiciens frustrés, je trouve qu'ils ne sont jamais sortis vraiment bien. Il n'y a pas le petit déclic qui fait qu'on arrive au top de son travail, parce qu'il y a un manque. Il faut quand même que, comme être musicien, je pense, il faut, faut avoir une certaine envie quand même profonde pour faire ça. Puis pour d'autres raisons aussi, qui sont les horaires de travail aussi, par exemple, parce qu'il faut quand même en parler. C'est quand même un métier qui est assez dur à ce niveau-là. Il faut quand même avoir un tempérament de fer pour aller s'enfermer quand même 12 heures ou 14 heures par jour dans un endroit où il n'y a pas de lumière, où il y a une climatisation en permanence, et où il faut gérer le stress des artistes, le stress des musiciens, les impératifs financiers qui en découlent, parce que finalement, vous en êtes un petit peu responsable. Même si des fois, les gens ne s'en rendent pas vraiment compte. C'est que quand vous gérez, par exemple, les musiques de films, au prix des musiciens, multiplié par le nombre de musiciens sur une journée, l'enveloppe est assez importante. Donc je pense que tout ça... Enfin, c'est une partie un peu sous-jacente quand même dans la vocation, je pense quand même. Après, pourquoi ingénieur du son, je sais pas, je pourrais pas expliquer, je sais pas si... Où est la vocation des autres aussi, en fait. Je sais que quand on en a discuté un petit peu avec d'autres collègues, en fait, personne ne sait vraiment. Tout le monde a eu cette envie, au fond de lui-même. Je ne sais pas pourquoi il en est arrivé là et pourquoi finalement, des fois, il est dans cette branche... Même si, au fond, ils sont tous contents de la branche dans laquelle ils sont, ils l'ont finalement un petit peu choisi, mais comme on s'est arrivé, personne ne sait vraiment. Et c'est vrai qu'un jour, je me penche vraiment sur la question, en fait, pour pouvoir répondre.
Alors, j'ai une phrase d'un musicien qui est venu travailler avec un quartet qui était contrebassiste et qui disait que pour lui, quand tout se passait bien au niveau d'un enregistrement, que le son lui semblait extraordinaire, pour lui, l'ingénieur du son était le cinquième musicien du quartet, finalement. C'était celui qui apportait énormément au niveau musical. Est-ce que vous le pensez ?
Oui, ouais. Je pense que c'est ça peut être la cinquième personne, effectivement. L'interface, en fait, de l'ingénieur du son est, à mon avis, la phase niveau technique, effectivement, la plus importante, puisque maintenant, tous les musiciens sont habitués à jouer au casque. Est-ce que vous allez leur redonner va les influencer sur leur jeu ? Effectivement, donc des petites choses qui peuvent paraître assez basiques comme une balance casque. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose d'important, comme le regard qu'on peut avoir avec eux quand on travaille, derrière la vitre, derrière le hublot, les premiers mots qu'on peut leur dire, l'installation, comment les disposer, être à l'écoute. En fait, moi j'ai toujours pensé qu'il fallait être à l'écoute des musiciens avec qui on travaillait. On était là pour ça. Si on veut aller au-delà, ça touche un autre métier qui est producteur. On l'est d'une certaine manière, finalement. Et là, on rejoint la cinquième personne, en fait, comme on disait de George Martin, qui était le cinquième Beatles. Tout faire pour que, effectivement, le groupe se sente en confiance et qu'on essaye d'amener le mieux et tirer le meilleur de ce qu'ils font. Alors que ça soit, effectivement, sur un mot réconfortant, ça peut être un regard. Et puis après, effectivement, dans le travail technique, pour essayer de donner le rendu au mieux de ce qu'on peut faire. Alors après, il y a des gens qui arrivent plus facilement à faire des balances, d'autres moins. Chacun va avoir un petit peu, c'est ce qui fait aussi la spécificité des ingénieurs, en fait, pour essayer de donner le meilleur du groupe, surtout quand ils sont peu, en fait. Voilà, quand ils sont peu comme ça, c'est vrai qu'en quartet, et tout ça, c'est beaucoup plus délicat, quartet ou quatuor, pour essayer de tirer l'essence de chacun et l'essence du groupe. Après, des fois aussi, on est aidé quand il y a un producteur aussi, un réalisateur, qui est notre interface, en fait, et qui peut vous donner quelques petites recommandations, en fait, pour que tout se passe au mieux. Et puis, des fois, ça marche pas. Voilà, c'est pour ça que, des fois, on va choisir tel ou tel ingénieur du son pour faire un projet.
Est-ce que vous êtes perméable aux ambiances que peuvent exprimer des studios d'enregistrement ? Je pense à ça parce que j'ai vu une photo de vous. Justement, on parlait du studio Guillaume Tell tout à l'heure. Ouais. Et on vous voit en train de regarder la console dans la régie du studio de Guillaume Tell. Et c'est vrai, bon, les murs sont en bois. Il y a une espèce de couleur assez chaude au sein de cette régie, mais est-ce que cela se ressent lorsqu'on travaille justement dans ce type de studio ?
Quelquefois. C'est vrai que je pense que c'est important de se sentir bien dans une cabine, quand on y est plusieurs jours, à raison de 10 ou 12 heures par jour. Est-ce que ça va se ressentir sur le travail ? Non, enfin moi je suis pas de l'école où on coupe les lumières, on met des bougies pour se donner une ambiance un petit peu. Après c'est vrai que si je suis dans une cabine froide, ça peut peut-être m'influencer un petit peu dans mon travail, mais j'arrive d'une manière générale quand même à vraiment m'isoler. Et puis maintenant, avec l'âge et l'expérience, j'ai quelques habitudes. Je demande à être dans tel ou tel endroit où effectivement je me sens bien pour travailler, mais je pense pas que ça influence vraiment mon travail. Après, il y a des cabines sur lesquelles, par contre, ça peut être rédhibitoire. Voilà, il y a certaines cabines où je me sens vraiment pas à l'aise et en réécoutant, je suis pas forcément satisfait du travail, mais je pense pas que ça soit. Mais je mettrais plutôt l'importance plutôt sur le matériel, sur la console, que sur l'ambiance. Par exemple, à Guillaume Tell, en reprenant l'exemple de Guillaume Tell, c'est vrai que j'aime beaucoup travailler dans la cabine en bas, qui est effectivement une cabine assez confortable, chaude. Et par contre, j'aime pas trop travailler dans la cabine en haut, sur la console numérique, qui est là pour coup, je trouve une cabine froide. Alors il y a des gens qui adorent travailler là-haut, mais moi le côté travailler avec des écrans partout, je trouve que je perds la spontanéité en fait, avoir tout inscrit partout, tout le temps, contrairement à une console où voilà, on commence un petit peu à toucher les boutons et il se passe quelque chose. À ce niveau-là, j'essaye moi plutôt d'être, voilà, quand j'ai un choix à faire, ça va être vraiment sur le côté technique de la cabine. Après, si les murs sont verts, jaunes, rouges, j'arrive à m'en faire assez facilement en fait. Même si ça joue quand même un petit peu, quoi. Mais après, ce serait plutôt l'ambiance générale du studio. Il y a des studios qu'on a toujours considérés un peu comme des studios froids, d'autres qui sont des studios un petit peu plus chaleureux, où on croise beaucoup plus de gens dans les couloirs. Voilà, c'est vrai qu'après, sur des longues périodes, je pense que là, c'est important de, quand même de se trouver dans un endroit où on se sent bien. Mais en général, les clients et les artistes sont assez à l'écoute depuis quelques années, je trouve, la nouvelle génération. Ils vous demandent, est-ce que vous préférez être dans tel ou tel endroit à chaque fois, ils disent, c'est, voilà, ce qui compte, en fait, c'est que toi, tu sois bien, t'es tes repères. Si tu préfères être dans le studio et qu'il est finalement 100 euros plus cher, bah, allons là-bas. Mais moi, ce qui compte, en fait, à la fin, c'est le résultat. Donc, ouais, voilà, d'une manière générale, on va un petit peu partout. On est un petit peu obligé, de toute façon, hein, parce que sinon, on pourrait passer pour des divas après. si on commence à demander des choses précises, même si on essaye, hein, mais bon, faut quand même s'habituer. Il faut s'habituer à tourner un petit peu partout. Hein.
Alors, vous êtes un cas particulier par rapport à tous les ingénieurs du son qui sont venus ici, parce que, d'après ce que j'ai entendu dire, vous êtes un ingénieur sans studio. Vous travaillez, vous avez votre valise, votre petite valise remplie de micros personnels,
ouais.
Et vous allez de studio en studio, ou d'endroit enregistré, d'endroit enregistré. Pourquoi un tel choix ?
Parce que c'est le choix de, je pense, 9 ingénieurs du son sur 10. Tous les ingénieurs du son que je connaisse, en fait, sont dans le même cas que moi.
Donc j'ai eu des particularités ?
Il y a des chances, parce que ce qui se passe maintenant, c'est qu'en fait, j'ai appelé ça la jeune génération d'ingénieurs, celle qui me concerne, commence à se monter un petit peu des petites cabines pour pouvoir faire des edits et pouvoir proposer aux productions, par exemple, d'avoir une petite cabine de pré-production pas très chère, qui leur permet d'investir dans un petit peu de matériel, faire toute la pré-production en fait d'un album, et pour que les coûts soient moindres, puisque les budgets baissent d'année en année. Donc effectivement, je connais pas trop d'ingénieurs du son qui ont monté des grosses cabines. Doivent pas être beaucoup, parce que même ceux qui en fait se sont mis dans des studios, en général, ont des contrats via les studios en fait. Je pense que ça serait une folie de nos jours de construire une cabine de surenregistrement, personnellement. Donc effectivement, je pense que c'était plutôt une particularité d'avoir des gens comme ça, parce que tout le monde est freelance et maintenant bouge en fonction de ses projets, en fait, change de studio régulièrement, pour des raisons acoustiques, des raisons d'ambiance, des choses comme ça. Donc effectivement, moi je fais partie de ces gens-là, avec une mallette, avec tous mes petits micros, et en plus en musique de film, nous on est amené à bouger. C'est pas, on n'arrive pas tout le temps à faire les projets au même endroit pour des raisons financières ou de planning, de choses comme ça.
Alors avant d'aborder les questions techniques, vous avez été l'ingénieur du son pour la musique du film La Môme.
Tout à fait.
Alors celui-ci donc a été couronné par un Oscar. Est-ce que cela a changé votre vie à ce niveau-là, niveau d'ingénieur
du
son ?
Mais en plus, je vais vous décevoir sur ce projet, parce qu'en fait, j'ai travaillé sur toute la partie de pré-production.
D'accord.
C'est-à-dire que j'ai enregistré la jeune demoiselle qui fait les voix d'Edith Piaf, voilà, qui est interprétée par Marianne Cotillard, qui ont été faites avant le tournage, puisque le compositeur était anglais, il y avait une coproduction anglaise, je crois, donc toute la musique a été enregistrée en Angleterre, à laquelle je n'ai pas participé. Mais apparemment, ils n'ont pas fait de différenciation dans les ingénieurs, d'après ce que j'avais vu, donc effectivement, tout le monde est un petit peu assimilé, mais moi, malheureusement, je n'ai travaillé que sur la première partie du film, donc j'ai fait des pianos-voix. Je suis désolé.
Alors, ça va vous faire sourire. Pour les auditeurs fans de Stéphane, vous avez un site qui s'appelle hollywood.com qui réclame les fans de Stéphane Reicher.
Ah bon ?
Oui.
Il va falloir que j'aille voir ça. Écoutez, c'est...
Voilà, parce qu'ils sont en train de se désespérer qu'il n'y ait pas, comment ça s'appelle, un blog sur hollywood.com sur vous.
Eh ben écoutez, je vais aller
fan au travail.
Je vais aller regarder ça, ça peut être intéressant. Alors pour revenir aux histoires d'Oscar, en fait, on a eu d'autres nominations sur d'autres films. En fait, sur De battre mon cœur s'est arrêté avec Alexandre Desplat, il y a eu une victoire de la musique, je crois. Il y avait César et l'Ours d'argent pour la musique. Ça, en fait, non, ça change pas du tout, parce que là, pour le coup, c'est vraiment le compositeur qui est au premier plan. Il nous fait partager le projet, mais non, ça, pour nous, ça change pas grand-chose, en fait. Ça peut nous servir un petit peu, des fois, pour appuyer un peu un CV, ou quand quelqu'un vous demande ce que vous avez fait, de pouvoir préciser, mais pas tant que ça, en fait. Les gens vont plus faire attention, en fait, au nom des films, qu'ils aient marché ou pas, plutôt qu'en récompense. Parce qu'une récompense, en fait, sur un film, Oui, ça touche vraiment plutôt le compositeur. En fait, c'est vraiment son travail que lui a fait à l'image. Après, il n'y a pas vraiment une récompense technique. Si la musique devait être nominée, elle aurait été qui que ce soit. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Moi, je suis très content à chaque fois quand il y a une nomination sur un projet. Mais nous, foncièrement, ça ne nous change rien. Moi, j'ai pas d'ours d'argent à la maison. J'ai pas de César. J'ai pas de victoire de la musique. J'ai rien du tout. Quelques disques d'or, choses comme ça. Mais c'est tout. Et ça change pas non plus la vie, en fait.
Non.
Ça fait plaisir, ça fait plaisir parce qu'on reconnaît votre travail. Ce qui fait vraiment plaisir dans ces cas-là, c'est quand le compositeur va vous appeler pour vous dire, voilà, on a eu une récompense et t'en fais partie. Donc voilà, je voulais partager avec toi et c'est le petit plus.
Est-ce que vous avez des impératifs particuliers pour l'enregistrement d'une musique de film? Est-ce que vous voulez des relations très proches avec le chef d'orchestre, avec le compositeur?
Avec le compositeur, oui, on a une relation assez proche. Il y a beaucoup de discussions téléphoniques dans un premier temps avec lui pour nous expliquer un petit peu la musique, la formation, dans quelle direction il voudrait aller. L'impératif à ce niveau-là, on va dire qu'il y en a très peu. Le seul impératif qu'on a, en fait, c'est l'impératif de temps. Voilà, c'est notre impératif principal à chaque fois, c'est la musique de film, un peu la dernière roue du carrosse dans le milieu du cinéma, c'est-à-dire qu'on se retrouve juste avant le mixage, puisque souvent le montage se finit assez tard, et le mixage du film final commence assez vite derrière, et il y a genre un mois et demi de battement, dans lequel le compositeur doit composer sa musique et l'enregistrer. L'impératif à ce niveau-là, effectivement, c'est trouver un studio dans le temps imparti, que tout le monde soit libre, et arriver à rendre en temps et en heure le projet. Même si des fois on arrive un peu à les décaler, en fait, à être un peu à chevaucher avec le mixage du film, ce qui est assez difficile puisque les mixeurs râlent pour ça. Ils aiment bien avoir tout dès le départ, que tout soit sur leur bande, prêt, et que ça arrive pas au compte-goutte. Ce que je comprends aussi, hein. C'est comme mixer une chanson sans voix. Au bout de deux jours, ça devient un peu compliqué. Donc ça, c'est le premier impératif. Et après, il y a les impératifs techniques du fait de travailler dans la musique de film. Donc ils sont les impératifs multicanal, qui peuvent aller de choses très simples sur dans quel format on va livrer la musique, nombre de bobines, fréquence d'échantillonnage, quel mode de format. Maintenant, c'est le 5-1 de toute façon. Voilà, avoir une compatibilité avec les formats qui en découlent, le Dolby SR, même si on nous demande moins de faire un petit peu moins de faire attention. Et puis les impératifs qui viennent des gens de l'auditorium va être est-ce qu'on fait des stems, c'est-à-dire des parties séparées, est-ce qu'on divise au niveau du mixage des parties pour qu'on puisse rééquilibrer au moment du mixage final du film certains éléments, par exemple dans le cas d'un piano corde, souvent on sépare en deux stems les cordes et le piano s'il y a besoin de rééquilibrer par rapport au bruitage et au dialogue. Voilà. C'est les deux, trois impératifs importants. Et après, c'est de bien faire son travail.
Est-ce que le compositeur peut vous obliger à faire des choses que vous ne voulez pas dans l'enregistrement ou dans...
Non, c'est assez rare. Je pense qu'en fait, les gens viennent vers vous parce que vous avez une manière de travailler qui leur convient et... Je ne me suis jamais retrouvé dans un cas où on me demandait de faire l'inverse de ce que j'ai l'habitude de faire naturellement. Et de toute façon, c'est une discussion qu'on a au départ aussi. On voit très bien quand on discute un petit peu de la prise de son. Donc il y a des compositeurs qui, pour eux, c'est pas leur travail, vous font confiance, ils savent ce que vous faites, ou vous avez l'habitude de travailler avec eux, donc connaissent votre manière de travailler. Et des fois, certains vous demandent un peu quelle est votre manière de travailler. Et là, il y a une discussion un petit peu qui se fait. Après, faut être ouvert, hein, parce que c'est vrai que moi, j'ai une approche assez classique de la prise de son, même pour la musique de film, mais suivant certains projets, par exemple, pour faire des musiques un petit peu plus anciennes, on va effectivement adapter sa manière de prise de son, qui peut être finalement à l'inverse de son travail, mais qui va dans un chemin artistique pour le film. Voilà, mais sinon, non. On m'a jamais demandé. Je pense que je refuserais, en fait. Parce que je pense que ça serait très dur. Parce que comme on donne beaucoup de soi dans la prise de son et dans le mixage, travailler vraiment à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire et de ce qu'on ressent, je pense que ça serait très, très difficile. Heureusement, ça m'est pas arrivé encore, mais on verra bien ce jour-là.
Alors sur le plan technique, nous avons reçu des questions de Romain Zemiri de Bruxelles, de Jacques, mais Jacques va les poser lui-même tout à l'heure.
Tout à fait.
Bon, alors Jacques Hubert de Radio France,
voilà,
qui a quelques questions au niveau de justement de cet enregistrement de la musique classique pour film. Il y a Aude qui est musicienne, qui a fait une école d'ingénieur du son et qui donc était très très intéressée de venir écouter. Elle est fan. Voilà. Et peut-être Christophe qui va nous poser quelques questions tout à l'heure, mais il est très timide. Il est très timide, notre Christophe. Il est tellement timide qu'il a mis le micro à 1 mètre au-dessus de lui. Comme ça, il est sûr qu'on ne l'entend pas. Alors, la question la plus générale que l'on pose, c'est au niveau des micros, quels micros vous utilisez et quels sont vos 3 micros préférés?
Alors.
Ah.
Les micros que j'utilise, en fait, principalement pour l'orchestre, sont les M150 de chez Neumann, sur le principe d'un D4i. Voilà, donc en fait, moi j'en ai 5 qui me permettent d'avoir la base du D4i plus les 2 micros extérieurs sur le côté gauche et droit de l'orchestre. Ça, c'est ma base principale de travail. Mes 3 micros préférés, les micros Sennheiser, toute la série MKH. En fait, c'est un très très bon micro que j'ai découvert un peu sur le tard, de manière tout à fait fortuite, parce que je suis en contrat en fait avec Neumann, et Neumann appartient à Sennheiser, et un jour ils m'ont passé une paire de micros pour que je les essaye, et j'ai été assez surpris du résultat, et depuis en plus le contrat aidant, en fait j'en ai beaucoup, et je travaille beaucoup avec ce micro là aussi. Et troisième micro, je dirais Shubs. Je pense que voilà, j'en utilise pas mal aussi, tout dépend de ce que je fais en fait. Mais ça serait les 3. Après j'utilise aussi beaucoup d'autres micros, mais principalement, c'est ceux-là avec lesquels je travaille, parce que je les connais très très bien. Je sais comment ils réagissent, et puisque moi, je les ai en permanence avec moi, donc ça va être mes 3 choix, on va dire.
Jacques, aurais-tu une question à ce niveau?
Peut-être pour rebondir par rapport à l'arbre des cas, enfin la technique de l'arbre des cas, est-ce que un cas de figure, on ferait utiliser une autre technique plus traditionnelle, comme le AB, ORTF, etc.
Pour le film, non.
Non.
Pour le film, non, pour la simple raison qu'on a une troisième enceinte au centre. C'est compliqué de refabriquer des centres dans ces cas-là, parce qu'il y a deux spécificités en fait dans la prise de son pour le film. Au cinéma, il y a donc 3 enceintes, gauche, centre, droite, avec les dialogues qui sont principalement au centre, et qui est en fait une enceinte qui permet de stabiliser une image lors de la projection dans une salle de cinéma. Parce qu'il faut, grosso modo, il faut savoir au cinéma, quand vous vous placez même dans une grande salle, si vous vous décalez à peu près de 8 à 10 sièges, vous êtes quasiment en face de l'enceinte gauche, parce qu'elles sont quasiment au tiers dans la salle. Et donc, cette enceinte centrale permet, elle, de stabiliser toujours l'image sur le centre de l'écran, pour que les personnes qui soient à gauche ou à droite ne sentent pas les dialogues au centre, et la musique soit à gauche, soit à droite. Donc, il a fallu trouver une méthode où on pouvait avoir un enregistrement musical avec une répartition stéréo sur 3 enceintes. Alors, il y a différentes méthodes, plein de gens ont essayé des méthodes différentes, et dans les années 70, pour un peu l'anecdote historique, en fait, ils sont les Anglais qui étaient déjà des férus de cette technique d'enregistrement qui date de 1955, sont rendus compte en fait que, puisqu'au départ le D4i était un système de prise de son stéréo, à 3 canaux, avec un centre qui était matricé dans le gauche-droite, ils se sont dit, si finalement je ressors mon centre et que je le mets dans mon centre, je me retrouve avec une stéréo diffusée par 3 canaux. Et qu'en plus, si je rematrice dans l'autre sens, je récupère de nouveau ma stéréo. Tout est fait d'un coup. Donc effectivement, beaucoup de gens en fait ont pris cette habitude. En plus, vu que c'est une méthode qui a quand même fait ses preuves pendant 40 ans au niveau de la prise de son, considérée comme une des plus belles prises de son en musique classique depuis les années 55. Moi, je sais que j'ai utilisé beaucoup dès le départ, en fait, cette méthode qui était quasiment pas utilisée, en fait, avant que je l'emploie. Je dis pas ça pour me faire mousser, mais c'est vrai que avant que j'emploie cette méthode, les gens n'utilisaient pas cette manière de prise de son en France. Beaucoup utilisaient le grand, ce qu'on appelle, c'est un genre de grand AB, en fait, avec 3 micros séparés quasiment de 2 mètres en rampe qu'on mettait derrière l'orchestre avec un gauche, un centre et un droite. Et moi, j'avais décortiqué beaucoup d'enregistrements de musique de film, et je comprenais pas au départ comment ils faisaient pour avoir une image spatiale aussi large et avec un centre aussi stable. Et en faisant des recherches, en fait, je me suis rendu compte qu'ils commençaient à parler du Décatri. J'ai commencé à faire des recherches, j'ai rencontré des ingénieurs de la Déca qui m'ont un peu expliqué les méthodes d'enregistrement, les manières de l'utiliser, puisqu'il y a et la vraie manière, en fait, du Décatri est celle qu'on a tendance un peu à lire sur les sites internet et qui est une méthode assez erronée, en fait, finalement. Après, effectivement, pour certains styles de musique, par exemple, pour le quatuor à cordes, j'aurais tendance plutôt à utiliser de l'AB, effectivement, de l'AB stéréo, parce que je me retrouve avec une image beaucoup trop large pour un quatuor. Alors, dans ces cas-là, il y a des fois pas de centre, où on peut resserrer maintenant avec les consoles LCR, on arrive à resserrer un petit peu sur le centre, et puis à injecter quand même un peu de son au centre pour essayer de donner l'image. Parce que finalement, faire un enregistrement trois canaux n'est pas non plus une obligation. Vous pouvez très bien fournir un enregistrement stéréo et puis ils pourront s'en contenter. Mais le mieux, c'est quand même d'essayer d'avoir un minimum quand même de signal au centre. Mais ce n'est pas non plus une obligation. Donc effectivement, m'arrive d'employer l'AB Omni et l'ORTF, en fait, jamais. Jamais parce que la stéréo n'est finalement pas assez importante pour les matrissages en fait qui ont lieu après, surtout pour le Dolby SR. Pour faire une vague description, en fait, ce qui se passe avec le système Dolby SR, c'est que tout ce qui est, pour faire simple pour tout le monde, tout ce qui est mono, tout le signal mono qu'on retrouve dans la stéréo part automatiquement dans l'enceinte du centre, alors qu'il ne peut n'avoir rien physiquement sur l'enceinte du centre. Et tout ce qui est, tout ce qui touche à une phase très élevée et presque hors phase part à l'arrière. Donc ce qui se passe principalement avec l'ORTF, qui est quand même, on va dire, une phase qui est quand même assez stable, on se retrouve avec un signal finalement assez mono. Et donc on perd tout, il n'y a plus du tout de stéréo. C'est-à-dire que quand on écoute, on n'a plus du tout de stéréo, on a l'impression que vraiment 70% du signal est dans l'enceinte centrale. Et il faut quand même au cinéma d'essayer d'être assez large pour le coup, pour avoir quand même un peu une sensation de stéréo, parce que les trois enceintes sont à plat, derrière un écran, donc on n'a pas du tout le même rapport de stéréo. L'écoute, c'est plutôt une écoute à 30 degrés plutôt qu'à 60 par rapport à une vraie écoute stéréo. Donc il faut arriver un petit peu à matcher avec tout ça, et c'est vrai que finalement, le Décatri est la méthode qui permet un petit peu de tout faire.
Et image mise à part, c'est malgré tout votre système préféré.
D'accord. Ouais. C'est au niveau spatialisation, rapport de timbre, je trouve que c'est. Après, il faut bien le placer aussi. C'est vrai qu'il y a certains endroits qui peuvent être un peu critiques, mais.
Et tout ça sans appoint, en plus. Ou peut y en avoir.
Il peut avoir un peu d'appoint. D'accord. Il peut avoir un peu d'appoint. En fait, moi, j'utilise une méthode qui est assez proche de l'enregistrement DK classique, qui était faite dans les années 60-70, en fait, qui est celle qui était développée par Kenneth Wilkinson, qui est mon grand maître à penser, on va dire, la prise de son. Donc j'ai décortiqué tous ces enregistrements, parce qu'on a la chance de pouvoir les retrouver maintenant. Ils sont tous réédités en CD, en mid-price en plus, donc je conseille à tout le monde d'aller les écouter. En plus, il y a les micros, tout est expliqué en général sur la quatrième de coup, donc c'est très bien. Et la méthode est assez simple, en fait, c'est le Décatri, qui est placé juste un petit peu derrière le chef, deux micros extérieurs gauche et droite qui permettent de tirer un petit peu sur la stéréo s'il y a besoin sur les fonds de pupitre, violon et violoncelle, un couple au-dessus des bois, un appoint contrebasse, un appoint sur la harpe, un micro d'appoint sur les cuivres, souvent sur la timbale pour un petit peu préciser, c'est tout. En général, moi, mes musiques de films se résument à peu près à ça au niveau de la prise de son, même si je mets beaucoup plus de micros, parce que maintenant les moyens techniques font qu'on peut enregistrer beaucoup plus, mais d'une manière générale, en mixage, je me retrouve avec 12-14 pistes à peu près d'ouvertes, quoi.
Et en ce qui concerne les appoints, j'ai parfois vu à Radio France qui mettaient des omnis, parce que souvent, moi, en théorie, on mettrait des cardios.
Ouais.
Quel est votre point de vue là-dessus?
Mon point de vue à ce niveau-là, c'est pour des raisons qui sont tout à fait techniques, en fait. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode concernant le choix d'un micro omni ou cardio, même si moi, effectivement, je pencherais aussi pour un micro omni, comme ils ont tendance à faire avec des TLM50, par exemple, sur les cordes. Ce qui se passe dans la musique de film, c'est qu'on ne sait jamais vraiment ce qui va nous arriver dans une séquence. Quand on démarre une séquence et qu'on l'enregistre, on peut découvrir à un moment que finalement, il y a un instrument qui va devoir ressortir à tel ou tel endroit parce que finalement il y a un bruitage. parce qu'il y a un dialogue ou parce que finalement il y a une petite réponse qui doit se faire à l'image. Est-ce qu'il faut en fait, dans les appoints, il faut qu'on soit le plus précis possible pour qu'à un moment ou à un autre, si on a besoin d'un son précis, on puisse vraiment aller le chercher. Et le problème de l'Omni, c'est que des fois quand on ouvre le micro Omni, y a un petit peu tout le monde dedans. Donc sans partir dans de l'hypercardio, de choses comme ça, on va effectivement travailler beaucoup plus avec du cardio, surtout sur les bois, choses comme ça, parce que il va peut-être falloir un moment arriver à ressortir un trait de flûte, parce que musicalement il va passer, mais dans le film il va pas passer.
Donc la pointe, ça va préciser le timbre.
Voilà.
Mais l'omnidirectionnel est aussi directif dans les hautes fréquences, donc ça peut aussi jouer ce rôle.
Oui, mais pas assez.
Pas assez ?
D'accord. Ah non, et tout ce qui prend derrière, ça sera pas assez. Même si en plus on tient compte des facteurs de distance, mettre un microcardioïde sur une flûte ou un micro-omni, il va pas du tout se passer la même chose quand on va le lever. Même si, effectivement, le micro-omni va mieux s'intégrer, mais là, c'est pas ce qu'on nous demande en fait. C'est pas ce qu'on va nous demander, donc il va falloir effectivement être assez précis. On part pas non plus un micro par musicien, hein. Un micro pour deux flûtes suffira. Et des fois, ça nous arrive même de pas pouvoir la ressortir, hein, la phrase. Hein. Après, il y a pour le coup, sur des enregistrements qui sont plus musique variété, on va dire, entre guillemets, effectivement, j'aurais plus tendance des fois à utiliser des micros omni plutôt que des micros cardio. Bien que quand même, les gens sont toujours apeurés quand ils entendent autre chose que l'instrument dans la piste du micro. Mais ça, après, c'est des... faut arriver à les rassurer à ce niveau-là, dire que mais si ça marche.
Alors à propos de ces fameux micros d'appoint, une question de Romain Zemiri de Bruxelles. Alors les 10 appoints sont-ils retardés, corrigés ou réverbérés avant l'utilisation dans le mixage?
Des fois les trois. Corrigés, ça peut arriver. Ça peut arriver. En général, en orchestre, en fait, on a plutôt une correction globale qui est assez simple. En fait, souvent, on rehausse un petit peu les hautes fréquences, sur les harmoniques, nettoyer un peu le bas s'il y a besoin, en fonction de l'acoustique de la salle. Après, ça va plus être des filtres sur les micros, c'est rarement en musique de film des grosses corrections. Et après, moi je sais que j'utilise les délais, ouais. Les micros que j'utilise en fait sont souvent redélayés, ouais. Et réverbérés aussi, pour qu'il y ait une meilleure intégration. Et de toute façon, l'intégration sera d'autant meilleure si on met le délai. Alors après, il y a deux écoles. Il y a des gens qui disent oui, mais comme ils ont joué au clic, si tu le retardes, il est plus en place. Mais voilà, il faut arriver à faire une moyenne de tout ça. Moi, je pars du principe que le point zéro, en fait, c'est mon couple. Donc, je fais des moyennes par rapport à ça. Alors par contre, il m'arrive des fois, volontairement, de ne pas délayer une piste. Par exemple, souvent, les contrebasses ou les harpes. Pour avoir un côté vraiment, dès qu'elles ont des parties un peu rythmiques, choses comme ça, qu'elles soient effectivement plus sur le clic, plutôt que de les recaler par rapport à l'orchestre. Comme de toute façon, je les réinjecte souvent de manière assez sporadique, ça ne s'entend pas en fait. Hein. Enfin, on a fait des enregistrements comme ça pendant 40 ans, ça ne gênait personne. Donc, Et puis après, voilà, après il y a la discussion de comment calculer son délai, faire la moyenne. La moyenne du délai aussi, par rapport aux réflexions, donc voilà, il faut écouter. En général, je replace les coupes principaux, le couple de bois sur les cuivres, si j'utilise, sur les timbales. Après, des fois, ça m'arrive sur les caisses claires de ne pas les remettre, pour avoir le flat, en fait, parce que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Après, d'une manière générale, il faut un peu... j'essaie de faire une moyenne, en fait, à peu près, puis après, tout va dépendre dans quelle mesure on les insère dans le mix, quoi. En général, si on considère que le niveau d'enregistrement est identique sur toutes les pistes, les appoints sont entre moins 20 dB et moins 15 maximum. Quoi. C'est vraiment très rare que je vais mettre beaucoup plus fort. Voilà. Je préfère baisser mon couple s'il y a besoin, plutôt que de mettre des appoints forts. Je trouve que ça dénature tout. Cette image globale de l'orchestre, en fait, pour moi, l'orchestre, c'est un tout. Qu'il soit 50, qu'il soit 80, qu'il soit 40, j'essaie d'avoir une homogénéité globale. Si à un moment, il y a tel ou tel musicien qu'on entend moins, des fois, il y a des raisons qui sont des raisons d'écriture, plutôt que de tout entendre. Alors, il y a une deuxième école qui est effectivement d'utiliser beaucoup d'appoints, de mettre 40, 45 appoints, des fois, j'ai vu à peu près ça, et de rajouter du couple pour mettre un petit peu d'air sur l'ensemble. Et là, en général, là, ils n'utilisent pas les délais. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tout est au même plan. Les bois, les cuivres, les cordes, Alors c'est très très bien réparti, parce que chaque partie est très très précise, mais ça enlève de l'âme à la musique, je trouve. C'est une méthode qui se vaut aussi, hein, qui est assez efficace, en fait, dans le film. Je trouve qu'on perd... Il y a une sensibilité qu'on perd.
Ça me rappelle un peu l'exemple, ce qui n'a rien à voir avec la musique de film. Vous savez, on a des variétés, des variétés françaises, hein, sur la télévision, TF1, France 2, Extraordinaire et Inoubliable. Et nous avons par exemple des émissions où on présente 500, 600 choristes. Et on voit des micros partout, partout au niveau de l'orchestre, au niveau des choristes. Et quand on reçoit l'émission et le son de la télévision, les choristes, on entend une voix. En fait, les 500, on ne les entend pas. On entend un ou deux chanteurs.
On entend le plus près, oui. En général, c'est ce qui se passe.
Ouais. Finalement, on fait du... Comment ça s'appelle ? On essaye de montrer qu'il y a beaucoup de techniques et derrière, il n'y a plus rien.
Ouais. Bah oui, puis en plus, pour le coup, je pense que... effectivement, la diffusion... Souvent, c'est des diffusions live. Il y a quand même, malgré tout, je pense, une limite technique sur certaines choses. Effectivement, 500 choristes, il faut aller dans une salle et puis aller écouter 500 choristes. Prise de son de 500 choristes, effectivement, si elle se fait partir un petit peu loin, avec des systèmes de couple plus ou moins espacés, je pense que le rendu ne peut pas vraiment être bien. Donc effectivement, en général, vous allez entendre les 2-3 premiers qui sont devant, qui vont bien timbrer. Et puis il y aura l'effet de masse. Mais je pense que personne ne s'en rend compte, à part nous. Hein. Ah, la oui. Télé, ça doit, je ne pense pas que ça gêne les gens, hein, les auditeurs. Hein. Ils vont regarder, ils vont avoir l'impression de voir 500 personnes et d'en entendre 500. L'image a beaucoup de pouvoir sur le son. Il hein. Y a quand même ça aussi. Hein. C'est vrai que quand on écoute les enregistrements d'orchestre qui sont faits à la télé, c'est quand même assez violent des fois. Parce que ces systèmes de prise de son assez rapprochés qui sont pas forcément évidentes. Puis je pense qu'il y a des contraintes techniques aussi importantes.
Alors, autre question qui m'a été posée, c'est au niveau de l'orchestre. Le plan de l'orchestre est-il toujours le même sur le plan symphonique ? C'est-à-dire, est-ce que vous intervenez à ce niveau ? Est-ce que vous avez intérêt à intervenir pour changer les places ? Ou vous laissez tel quel et c'est vous, vous gérez après ?
Ah non, 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 tout se fait en bas. Je peux avoir une intervention des fois au niveau de la formation avec le compositeur. On peut discuter en fait en fonction de l'endroit dans lequel on va enregistrer, avoir une discussion sur le nombre de musiciens. Est-ce qu'il serait mieux d'en avoir un peu plus, d'en avoir un peu moins, en fonction de ce que j'ai pu aussi écouter des maquettes. Quand on se connaît bien, effectivement, on a des discussions qui peuvent se faire au niveau de ça, d'une manière assez globale, on va dire. Hein, parce qu'après, tout va quand même dépendre de son écriture, mais... Là, le projet que je suis en train de suivre et que je dois faire à l'étranger, en fait, en fonction des salles, de mon avis, le compositeur va effectivement écrire en fonction de ce que moi je vais lui dire sur la capacité qu'il va pouvoir mettre dans la salle. Il m'a gentiment donné cette responsabilité. Donc effectivement, je peux avoir une intervention à ce niveau-là. Et après, effectivement, ça va être aussi une discussion avec le compositeur sur le choix de l'emplacement des musiciens. Par exemple, inverser des violoncelles et des altis en fonction de son écriture, en fonction de ce qu'il a envie de rendre, effectivement. Et ça sera fait à l'enregistrement. Vu que je vais essayer de travailler à 70%, 80% au couple, s'il y a un changement qui se fait, effectivement, on le fait tout de suite et en bas. Ça nous est déjà arrivé en dernière minute, en fait, finalement, de changer parce qu'on trouvait ça mieux. Certains compositeurs ont des habitudes aussi, donc on tient compte de ça aussi, leur discussion. J'avais travaillé avec Vince Mendoza, qui fait les enregistrements de Joni Mitchell, et qui a l'habitude d'avoir les bois, plutôt que de les avoir sur deux rangées, 4 et 4, d'avoir les 8 en ligne. Et donc ça, on ne peut pas le faire après. Ça s'entend. Ça peut être aussi sur une position de big band. Il y a des gens qui ont les big band à l'anglaise, avec les sax à gauche, trompette, trombone à droite, et l'école américaine, où ils sont tous en randonnion, en fait, les uns derrière les autres. Donc ça, en général, on essaie de les disposer, parce qu'effectivement, il ne va pas du tout se passer la même chose. Et après, même dans le choix des micros, quel micro mettre, en fait, quel couple, quel choix de micro, en fonction des musiciens qui vont être devant et derrière aussi, ça peut beaucoup influer. Donc moi, j'essaie vraiment de faire très très attention à ça, en fait, et à la disposition de l'orchestre dans la salle. Je sais que j'essaye d'être tout le temps là aux installations pour avoir la meilleure répartition possible dans la pièce entre les musiciens, parce que un orchestre qui est bien installé, c'est un orchestre qui s'entend bien et donc qui fait une grande partie de votre travail. Après, il y a des écoles où les gens ne font pas trop attention, mais moi je pense que c'est quand même très très important. Ça permet de... C'est déjà pas facile de jouer avec un casque, sur une oreille. Donc si en plus ils n'arrivent pas à entendre leurs voisins, ça complique les choses. Donc j'essaye vraiment de faire très très attention aux dispositions et je suis très pointilleux là-dessus en fait. Et c'est pour ça aussi que j'ai maintenant des assistants avec qui j'ai l'habitude de bosser, qui savent installer aussi de telle manière, avec tel espacement. Ça devient presque caricatural en fait, mais c'est à 10 cm près entre des chaises en fait.
Non, il y a une autre question de notre homme de Besançon, qui est Monsieur Darlo, qui demande l'utilisation de compression dynamique dans une musique de type symphonique. Que penser de l'utilisation
de l'utilisation de la compression?
Oui.
Bah, je pense que là, c'est un choix esthétique. Moi, je l'utilise très peu, en fait. En tout cas, dans le mixage multicanal que je donne à l'auditorium, en général, la musique n'est pas compressée. J'essaie de garder le maximum de dynamique, parce que on est sur une grande écoute, donc ça passe beaucoup plus facilement. Après, pour le disque, il nous arrive de compresser un peu, mais de manière assez fine.
De compresser par rapport à la musique de film de salle?
Oui, la réduction stéréo qui D'accord. nous sert à faire en fait le master CD, en général, au mastering, on le compresse un petit peu, mais pas, c'est pas énorme. Hein, si c'est 2 dB sur le moment le plus fort, voilà, c'est les 2 dB qu'on gagne de l'autre côté en fait pour rehausser un peu le niveau du CD, parce que sinon on se retrouve avec une écoute où on a la maison à passer son temps à monter, à baisser le volume. Mais en général, c'est pas beaucoup plus. Hein, mais je suis pas contre. Hein. Et il m'est arrivé, des fois, sur certaines musiques de films, quelquefois, pour donner un côté beaucoup plus péchu, de compresser. Et les Américains, je ne gêne pas pour compresser, hein, les musiques de films. Ça arrive, oui. Après, on peut avoir des fois des compressions générales quand il y a des mélanges électro-acoustiques. Voilà, ça permet de tenir un petit peu plus l'ensemble. Ou dès qu'il y a des éléments un peu synthétiques, des boucles et des choses comme ça, effectivement, on peut avoir une compression générale sur l'ensemble, mais... Ce qui risque de se passer, c'est souvent les éléments électroniques qui vont déclencher la compression plutôt que l'orchestre.
Excusez-moi, sans parler de compression au sens machine du terme, enfin automatique, est-ce que parfois vous rattrapez manuellement, j'ai envie de dire, avec le bruit de sortie, par exemple, par rapport à la partition?
Oui, ouais, par contre, on fait la compression manuelle.
D'accord.
La compression manuelle, celle-là, elle existe effectivement, ouais. De manière assez fine aussi, on va dire, mais ça peut être 2-3 dB aussi, mais effectivement...
Est-ce que c'est pas préférable?
Ça le sera beaucoup plus, même s'il y a des compresseurs qui sont très très musicaux maintenant aussi. Et puis après, bon, faut faire confiance au rendu aussi, aux ingénieurs de mastering, quand on fait ça, qui eux vont vous dire, non, on a une plage de fréquence qui est beaucoup trop étendue, ça va être compliqué pour l'écoute après, pour les gens, tout le monde n'a pas super système IFI à la maison, donc on essaie de faire, mais il nous arrive aussi effectivement des fois de faire un système de compression manuel, souvent plus par rapport au film en fait. Souvent, on a des musiques qui marchent très très bien, et donc on a deux versions. On a une version qu'on appelle version film, où là, on se retrouve à faire des suivis dans le film par rapport au dialogue. Souvent, c'est un début qui était beaucoup trop faible, qu'on remonte, une fin qu'on rebaisse un petit peu. Et puis après, on garde la version souvent avec la nuance naturelle. Celle-ci sert de version CD. Donc effectivement, j'essaie de pas trop tôt compresser, parce que en général, le compositeur qui dirige la musique de film et l'orchestre ont essayé de faire des belles nuances. Donc j'essaie de garder au maximum, de retranscrire au maximum ces nuances-là. Mais de manière technique, c'est quand même bien un petit peu pour le format disque.
Est-ce que vous trouvez qu'il y a une évolution de la prise de son classique entre ce qui a été fait par Deutsche Grammophon, DECA, et ce qui se passe actuellement?
À Deutsche Grammophon, c'est vraiment amélioré. Je préfère. Sinon, non, ça n'a pas bougé... Ça aurait peut-être même un petit peu régressé, je pense. Je pense qu'on n'a pas fait aussi mieux que ce qui a été fait dans les années 60 et 70. Mm-hmm. Que ça soit chez RCA, que ça soit chez DECA, même s'il y a des erreurs, il y a des choses que nous, maintenant, on pourrait considérer comme des erreurs techniques, mais vu qu'il y avait une restriction de matériel, de pistes, de choses comme ça, ils allaient à l'essentiel. Et je pense que maintenant, avec l'arrivée des nouvelles technologies, c'est ce qu'on a perdu. On a perdu l'essentiel de notre travail, en fait, qui est de reproduire quelque chose. Tout le monde s'embarque dans des polémiques techniques, de choix, de choses comme ça, alors qu'il faut juste, voilà, il faut juste enregistrer de la musique. Et eux, à l'époque, ils faisaient ça en 3 pistes, 5 pistes, et ils faisaient des réductions stéréo en direct. Et beaucoup de ces enregistrements, ça sont quand même des enregistrements assez merveilleux au niveau des prises de son. Après, il y a eu cette école années 70, l'école des micros d'appoint chez Philips, chez Deutsche Grammophon aussi, où on a perdu un petit peu de l'essentiel, beaucoup d'enregistrements qui étaient faits avec Karajan aussi, qui étaient noyés dans une réverb. C'était incroyable. Et puis là, ils sont venus, la nouvelle équipe est revenue à des choses beaucoup plus simples. Même si des fois, en écoutant, pour le coup, parce que j'en ai écouté beaucoup et je les ai un petit peu... j'ai essayé de les analyser aussi, même si des fois, il y a des choses qui sont complètement aberrantes. Mais bon, ça marche quand même aussi.
Je suis en train de penser, là, justement, à des émissions que l'on entend sur, je sais plus si c'est France Inter ou France Musique, où ils font des critiques sur les manières de mener la musique par des chefs d'orchestre. Est-ce que, justement, ces critiques ne seraient pas faussées par ces différentes prises de son?
Ah, je pense qu'elles peuvent intervenir. Je pense qu'une prise de son peut effectivement jouer sur la compréhension qu'on a d'une œuvre, sur sa direction, ouais. Ça peut intervenir. Le problème de la prise de son, c'est que c'est quelque chose d'assez abstrait, en fait. Parce que dans certains magazines où ils font des critiques sur le son, où ils nous parlent de sons un peu plats, un peu métalliques, de choses comme ça, ça m'a toujours fait un petit peu sourire, en fait, de pouvoir juger un enregistrement là-dessus. Parce que ça peut être déjà un choix artistique, d'avoir tel ou tel enregistrement. Ça peut venir du son des musiciens, ça peut venir de l'acoustique de la salle, ça peut effectivement venir du travail de l'ingénieur du son. Et après, effectivement, ça va forcément influer d'une certaine manière sur la façon dont on risque d'interpréter la musique. De là, après, sur une direction, je sais pas si... À un moment, on parle du son, on en parle quand même. On va dire, oui, mais dès l'enregistrement, c'est un peu comme ci, celui-là, il est un peu comme ça. Et je crois qu'il faut essayer de faire quand même abstraction du son dans ces cas-là. Moi, c'est ce que j'essaie de faire quand j'écoute un enregistrement. J'essaie d'écouter un enregistrement de tel orchestre ou de tel chef. Je vais écouter le son. Et après, j'essaie de m'en débarrasser pour juste écouter de la musique, parce que ce qu'il faut à la fin, c'est quand même écouter de la musique. Et d'essayer d'arriver à une certaine transparence au maximum pour essayer d'oublier la technique.
Quel est l'ingénieur du son en musique de film au niveau international qui vous titille le plus? Enfin, qui vous dites, oh, celui-là, il est vraiment extraordinaire.
Sean Murphy, c'est l'ingénieur du son de John Williams, qui a une prise de son qui est assez extraordinaire. Il y a un rendu extraordinaire, d'autant plus que le 70 à 80% des enregistrements de John Williams, en fait, sont en mixage direct, à l'ancienne. Et que pour la petite anecdote, Sean Murphy est manchot. Donc voilà, il a juste sa main gauche qui lui permet de toucher tous ses petits boutons et tourner ses partitions en même temps, et de faire son mixage en direct. Voilà, donc je trouve ça d'autant plus impressionnant. Et il est arrivé à amener dans la musique de film, en fait, un côté un peu pop, tout en gardant un côté très très classique, et on retrouvait un peu cette énergie des enregistrements des années 60 de chez Decca, voilà, dans sa prise de son. Alors il a fait des enregistrements des fois très très précis, il a fait des enregistrements très diffus aussi en fonction des musiques de film, mais à chaque fois il y a un tonus qui se dégage dans ses musiques de film et qui est assez incroyable. Et il travaille aussi avec très très peu de micros. Pour moi, ça reste le meilleur. Et c'est vrai que les prises de son qu'il a faites sur entre autres les films de John Williams sont quand même assez réussis. Hein. Il y a une très belle musique aussi, hein, donc ça aide. C'est sûr que quand vous avez un très bon orchestre avec un très beau compositeur qui dirige bien, une prise de son peut être aussi assez réussie. Il faut faire attention à ça aussi. C'est vrai que c'est des gens qui travaillent quand même à un certain niveau, avec quand même de grands orchestres tout le temps, dans des souvent de très belles acoustiques, très belles musiques, qui sont bien dirigées, ils ont du temps, donc ils ont le temps de préparer leurs enregistrements, et donc je pense que ça joue aussi. Hein, j'attends de voir Sean Murphy enregistrer un tout petit orchestre amateur dans une mauvaise salle, voir ce qu'il serait capable d'en tirer. Je pense qu'il ferait quelque chose de bien quand même, mais voilà, il n'y aura peut-être pas le tonus non plus. Hein. On dépend aussi de toute une chaîne, tout le monde dépend de tout le monde en fait.
Et la musique de film que vous avez le plus appréciée?
Alors là, la musique de film que j'ai le plus appréciée, il y en a beaucoup, je dirais La liste de Schindler, déjà, de John Williams, avec Itzhak Perlman. En plus, il y a une très très belle prise de son, c'est vraiment une belle partition, qui marche à l'image aussi, hein. Je tiens compte de ça. Qui d'autre Une très très belle musique de film, une sur laquelle j'ai travaillé, qui est la musique de Joyeux Noël, de Philippe Rombi. Voilà, l'hymne des fraternisés est pour moi un des plus beaux thèmes que j'ai jamais entendu, en fait. Qui est un grand monsieur qui écrit des très très beaux thèmes. En fait, il y en a beaucoup, hein. La musique d'une hirondelle à la fête printemps, il a écrit un très très beau thème dessus. Mais l'hymne des fraternisés, je pense que Et la musique de Joël Noël fait partie des musiques de films que j'aime beaucoup réécouter. Donc un français, un américain, on va dire.
Pensez-vous que dans les années qui vont suivre, il va y avoir une remise en question de la musique de film? Est-ce qu'ils vont essayer de remettre un peu plus, de manière importante, dans les films, ces musiques qui avaient tendance à être mises sous le coude? Parce qu'on commence à lire quelques articles, juste quelques lignes à ce niveau-là, mais est-ce que ça se sent?
Non, ça se sent pas encore. La musique de film reste quand même le parent pauvre du film. C'est-à-dire, ce qui se passe en France, en fait, c'est que la France est un pays du dialogue. Le dialogue est très très important, et ça c'est une première chose. Et contrairement à d'autres pays, je prends l'exemple américain, le grand patron dans un film, c'est le producteur. Voilà, c'est lui qui va décider qui va faire quoi et quel moment. Et le réalisateur d'un film, aux États-Unis, est un employé comme le compositeur de la musique de film. En France, d'une manière générale, pour simplifier, le grand chef, c'est le réalisateur du film. Le producteur est là pour amener son projet à bien, même si des fois il lui tire un petit peu l'oreille, mais ils font ça de manière assez douce. Et donc ce qui se passe en France, en fait, c'est que la deuxième personne qui a un vrai rôle artistique dans un film est le compositeur de musique de film. Et souvent, il y a des petites tensions qui se passent, en fait. Et donc, la musique de film, les réalisateurs de films, en fait, ont tendance à penser que la musique pourrait surpasser leur travail. Soit, effectivement, il y a dans le film, il y a quelques petits passages qu'il va falloir essayer de relever, donc on compte sur la musique de film. Mais d'une manière générale, les réalisateurs sont assez réticents. Puis on vient quand même d'une école de cinéma, du cinéma d'auteur, voilà, où la musique de film, moins on l'entend, mieux on se porte. Il y a quand même un réalisateur qui a dit qu'un film réussi, c'est quand même un film sans musique. Je ne citerai pas son nom, mais... Donc c'est sûr que de cette façon-là, effectivement, c'est assez difficile de promouvoir la musique de film. Il y a des gens qui font très très attention. Mais on se rend compte quand même que c'est quand même quelque chose d'un petit peu oublié. On le voit déjà dans la façon dont le planning est fait en général. Ça arrive un petit peu au bout et c'est « Ah bon, on n'a plus trop d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ?» Ça n'a pas été budgété dès le départ, donc ça n'a pas été pensé dès le départ comme un élément important dans le film. Alors sur certains films, ils en prennent conscience dès le départ, parce qu'il y a des producteurs qui sont des férus de musique de film et qui, pour eux, trouvent que la musique de film a une place importante parce que le film, comme aux États-Unis, c'est l'entertainment. C'est là pour distraire les gens, et non pas là pour les miner pendant 1h30. Pour eux, la musique de film a un rôle aussi important dans le film. Alors maintenant, est-ce que ça change? Je pense que ça va être un peu le rôle aussi des compositeurs, de pouvoir montrer que la musique de film peut avoir un impact. Faire comprendre aussi que, par exemple, avec 50 musiciens, on peut aussi faire une musique intimiste. Ça ne va pas forcément être la cavalerie qui va débouler. Et de leur faire prendre conscience un petit peu de tout ça, parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas de prise de conscience à ce niveau-là, en fait. Et moi, je l'ai ressenti, je donne des cours aussi à la FEMIS, je leur donne une idée de la musique de film, en fait, et du travail qui peut s'y faire, pour qu'il y ait une prise de conscience à tous les postes d'un film, puisque là, on peut trouver des monteurs son, des monteurs images, des futurs réalisateurs à la FEMIS, pour leur donner effectivement qu'il y ait une prise de conscience du travail de et avec la musique de film, ce qu'il n'y en avait pas du tout. Et on sent qu'ils sont un petit peu intéressés, qu'effectivement, les choses commencent peut-être un petit peu à bouger, mais je pense que ça va prendre encore un petit peu de temps.
Alors, question de Aude.
C'était pour continuer en fait sur cette discussion. Je me demandais si quand on est ingénieur du son de musique de film, c'était pas difficile justement d'avoir ce côté du spectateur qui entend, mais en fait n'écoute pas vraiment de la musique. Du coup, c'est sûr que la musique est efficace ou ne l'est pas vite, et ça c'est intéressant pour un compositeur, mais est-ce que c'est pas dur à gérer d'être doublement dans l'ombre quand on est ingénieur du son?
Non, ça, je pense pas que ça soit compliqué. Mais c'est à quel niveau en fait
C'est-à-dire que par exemple, pour un CD, on écoutera la musique, mais à la fois on fera attention à la prise de son, à la spatialisation de tout ça, aux intentions qui sont données.
Il y a 5% qui vont faire attention à la prise de son.
C'est vrai, hein.
Je te rassure, avec les années d'expérience, que pas beaucoup de gens vont te parler de la prise de son. C'est important, parce qu'il y a quand même 5% qui vont faire attention. Donc il faut aussi travailler pour ces gens-là, qui aiment le son, qui investissent dans du matériel pour écouter des belles prises de son. Donc on essaie d'aller au mieux. Mais la musique de film, c'est un petit peu de CD, c'est un petit peu de film, c'est un petit peu du 5-1, c'est un petit peu de la stéréo, c'est un petit peu de la compatibilité, faut que ça marche un peu à l'image, mais faut que ça marche un petit peu. Donc à force, en fait, on s'habitue à essayer de faire quelque chose qui marche un petit peu pour tout. On essaye, par exemple, dans la prise de son, effectivement, il va falloir que la prise de son marche pour le cinéma, il va falloir qu'elle marche aussi pour le CD. Donc après, on arrive à se détacher assez facilement de tout ça. Par exemple, il faut savoir quand même que ce qu'on écoute sur le CD, c'est une réduction stéréo. On ne fait pas de mixage, on ne nous donne pas le temps, on ne nous donne pas les moyens de faire un vrai mixage stéréo. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait une réduction assez classique du centre et des arrières. Et des fois, vous n'êtes même pas au courant que le CD part en mastering. Donc il faut arriver un petit peu à se détacher de tout ça.
Sur ce, la musique de film est importante parce qu'on s'aperçoit déjà que dans les ventes de disques, par exemple, dans les périodes décembre, janvier, février de cette année, les disques les plus vendus étaient les bandes-son de films. Sur ce aussi, on s'aperçoit que des films qui ont marqué comme MASH et autres, ce sont des films qui ont énormément vendu de CD, de musique de film. On a Tubular's Bell de Michael Field et compagnie. Ça a été quand même des ventes énormes de CD. C'était pourtant une musique de film. Donc c'est pour ça que c'est quand même hyper important qu'un film fasse attention à sa musique, parce que s'il y a un marché parallèle qui se crée aussi.
C'est vrai, et surtout aux États-Unis où quand vous allez dans un magasin de disques, le rayon musique de film est très 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 grand. La première fois, j'ai été impressionné en fait par le nombre de CD qu'on pouvait trouver, dont certains j'ignorais l'existence. Et eux ont un vrai marché, ont compris qu'il y avait effectivement un vrai marché au niveau de la musique de film, et effectivement font attention à ça. Et c'est vrai qu'on devrait aussi faire attention à ça en France. Les ventes restent quand même assez minimes, mais je pense que de toute façon, c'est important de faire attention, et c'est important que le CD existe, parce qu'il faut qu'il reste une trace d'une musique de film. Il était une fois dans l'Ouest, sans la musique des New Morricone, c'est pas Il était une fois dans l'Ouest.
Exactement, oui.
Tous les gens, je pense qu'on peut descendre en bas avec un micro, demander aux gens de vous chanter à la musique de Les Dents de la Mer ou de Star Wars, ils seront capables de le faire. Ça a eu un impact sur des générations entières.
Il y a une anecdote comme ça, c'est un film de Hong Kong.
In the Mood for Love.
In the Mood for Love, merci. J'ai appris que de nombreux spectateurs qui sont allés voir le film ont essayé de trouver la musique du film. Et malheureusement, les éditeurs n'ont pas sorti en CD ni en partition la musique. Et les gens ont été frustrés de ne pas pouvoir trouver cette musique.
Voilà. Et pourtant, elle existe.
Et pourtant, elle existe.
Mais je sais qu'à l'époque, il y avait eu deux tirages CD, en fait, où il y avait le fameux thème, puis beaucoup de musique, en fait, qui était inspirée, on va dire, du film. Mais il est déjà arrivé que des musiques de film sortent après. Ou à un moment, des gens se réveillent parce que le film a bien marché. Ça nous est arrivé il y a encore pas très longtemps sur un film qui a fait 20 millions d'entrées. Et il n'existe pas de musique de film. Et là, ils se sont un petit peu posé la question de savoir si ça serait bien que la musique de film sorte. En se disant, on le sortira avec la sortie DVD. Mais vu que je crois que le film sort dans un mois en DVD, on n'a toujours pas fait de CD, donc a priori, elle ne va pas exister. Je trouve ça dommage. Ça nous arrive souvent. Hein. Moi, sur le nombre de musiques de films que j'ai faites, j'en ai quand même fait beaucoup.
Il y en a très peu.
Je ne sais même pas si...
Il y en a très peu au niveau français. On connaît...
25, je ne sais pas si j'ai 25 ou 30 CD de sortie, voilà. Quoi, à peu près, sur 110 films, grosso modo, à peu près. Mais parce qu'il y a des gens après, il y a des compositeurs maintenant, vu qu'ils sont connus, automatiquement en fait on sort la musique de film. Ils sont très peu hein, en français. Bruno Coulet, Alexandre Desplat, Philippe Rombi, ça va être vraiment les trois qui ont un bac.
Si, il y a eu Farinelli aussi qui avait bien marché.
Oui.
Farinelli, et puis il y a le disque de Besson.
Ah oui, oui, Le Grand Bleu.
Le Grand Bleu qui avait.
Le Grand Bleu, ça a été un carton, carton national. Ouais. Ce film, tout le monde a eu le. Je pense que tout le monde a acheté cette BO.
Bien, quel est le calendrier dans les mois qui suivent, qui vont suivre ?
Un film franco-belge à la fin du mois, qui un enregistrement en Belgique avec l'orchestre de la Monnaie avec Frédéric Talgorn, qui a fait la musique dernièrement de Cléopâtre, de Astérix et les Jeux Olympiques. Ah, Astérix oui. Et les Jeux Olympiques, avec qui j'avais fait Anthony Zimmer. Mmh. Donc on se retrouve sur ce film, et après j'attaque avec Philippe Rombi pour le prochain film de François Ozon.
D'accord.
Et un petit peu plus tard, un film sur la rencontre entre Coco Chanel et Stravinsky. Mmh. Voilà. Qui se prépare aussi. Là, il y a beaucoup de préparation sur les enregistrements de Stravinsky, en fait, pour le tournage.
Question que je n'ai pas posée.
Oui.
Vous travaillez uniquement avec l'Europe ou vous travaillez aussi avec les Américains ou les gens ou l'Asie?
Non, je n'ai une seule fois avec un compositeur américain, qui était pour un album de jazz avec Di Battista, dont les arrangements étaient faits par Vince Mendoza, qui a fait des arrangements pour Björk, qui a fait des arrangements pour Joni Mitchell, qui est surtout connu pour ses arrangements avec Joni Mitchell. Donc on avait fait ce projet-là en France. On avait le quartet jazz avec grand orchestre tout en direct, à l'ancienne. Sinon, j'ai travaillé sur quelques films américains, mais qui étaient avec des compositeurs français ou étrangers. Après, on est amené à se déplacer dans d'autres pays pour faire des enregistrements, mais j'ai pas... Pour le moment, non, tous les compositeurs sont français. J'aimerais bien. Je m'étais posé la question une fois d'aller voir un petit peu du côté de l'Australie, puisqu'ils travaillent beaucoup avec, avec l'Asie, pour le coup. Ils ont des grands studios à la Fox, ça va. Et j'ai toujours pas fait par manque de temps. Marché américain, c'est fermé. Il y a 5 personnes qui gèrent tout le marché américain. C'est fermé, verrouillé à double tour. On peut pas rentrer. C'est impossible. Mais on a déjà suffisamment de travail. En fait, on est très peu à faire la musique de film en France. Donc on est déjà assez bien occupé en fait, comme ça.
Très bien, merci beaucoup Stéphane d'être,
c'est moi qui vous remercie.
D'être venu. J'espère que vous reviendrez nous voir.
Avec grand plaisir.
Merci à tous, nous avons beaucoup entendu Christophe.
Merci Christophe. Merci pour cette invitation en tout cas.
Merci Aude, merci Jacques. Ici nous sommes sur Autre Radio, Autre Culture. À bientôt. Autre radio, autre culture.